mon Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie, mais ton secours ne vient pas. Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore, et je ne trouve pas de repos. Pourtant, toi, le Dieu saint, tu es assis sur son siège royal, et tu reçois sans cesse louange d'Israël. Nos ancêtres ont mis de confiance en toi, et toi, ils ont mis de confiance et tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié et tu les as libérés. En toi, ils ont mis de confiance et ils ne l'ont pas regretté. Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme. Le malheur est proche et je n'ai personne pour m'aider. Les quatre évangiles nous donnent cette citation de notre Seigneur lorsqu'il est sur la croix. Il est probable qu'il ait dit autre chose que ce qui est dans l'évangile. Mais entre les quatre évangiles, on a l'image d'un crucifié en l'image de Dieu. On a beaucoup souvent l'image d'hommes crucifiés qui ne sont pas l'image de Dieu. Et c'est tout autre de ce que nous voyons dans notre Seigneur. C'est intéressant que on cite, que Jésus cite ce texte, psaume 22. Il y a diverses manières d'interpréter pourquoi il cite le texte, mais je crois que le sens le plus simple, le plus évident, c'est parce qu'il est dans la souffrance extrême, et il est dépassé par cette souffrance, qui est plus que physique, beaucoup plus que physique. Je suis tenté même de penser que la souffrance morale est infiniment plus grande. On peut symboliser par le dimanche précédent, le jour des Rameaux, quand il arrive sur le sommet des monts des Oliviers pour une survol du temple, on voit une foule mélangée, certaines chantent, voici le roi David, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. On attend de voir des critiques qui ne sont pas contents qu'on chante cela. Et un peu plus tard dans la journée, on demande à ce qu'on fasse taire les enfants qui chantent comme ça. Et Jésus, que fait-il? Il pleure. C'est bizarre, ça. Tout le monde chante, sauf ses ennemis, mais Jésus pleure. Nous n'avons pas de parole de Jésus sur la croix qui pleure. Il se peut qu'il ait pleuré aussi sur la croix. Mais c'est un homme qui est dépassé. Et c'est pas n'importe qui est dépassé. C'est un homme plein de foi, on dirait une foi parfaite, pourquoi pas. Mais est-ce possible de douter de la bonté de Dieu, que Dieu ne soit pas disponible lorsqu'on est dans le malheur? Et la réponse est oui, il est possible que l'on soit dans le malheur et le malheur ne passe pas. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, si c'est possible, Père, que cette coupe soit ôtée. Et Luc nous dit que lorsqu'il est dans le jardin, il est anxieux, il est affolé. Du fait que Jésus est capable de poser cette question, si on le pense prendre au sens le plus simple, ça peut nous autoriser aussi de poser cette même question. Il est même possible, paradoxalement, plus la foi est forte, plus elle est capable de poser de telles questions. Quand la foi est faible, on n'ose pas parler comme ça. Mettre Dieu en question. Nous ne prétendons pas résoudre le mystère de cette citation, mais nous comprenons que Jésus est dépassé et nous sommes aussi parfois dépassés. La foi en Dieu n'est pas statique, sans évolution, immobile, mais dynamique, vivante. Plus elle est vivante, plus elle est capable de poser des questions face aux choses qui dépassent notre expérience et connaissance. Je suis sûr que dans la vie de nous tous, nous avons passé par des moments extrêmement difficiles, et peut-être avons-nous aussi posé une question semblable. Il ne faut pas nous laisser intimider par notre faiblesse. Nous sommes foncièrement faibles. Et cette faiblesse peut nous rendre service et nous rendre plus dépendants de notre Seigneur. Plus quand on est faible, comme dit Paul, on est fort parce que on est obligé de se reposer davantage sur le Seigneur. Je crois que ce que je comprends par ce verset, c'est que il ne faut pas que je me laisse intimider par mes faiblesses. Et quand je me sens dépassé, la solution n'est pas de ne pas poser des questions, mais d'oser poser des questions à Dieu qui aura la réponse. Et la réponse peut être le silence dans un premier temps avant que la réponse définitive soit accordée. Il fallait que Jésus attende encore au moins 3 jours pour qu'il ait une réponse à sa requête au secours. C'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse. Mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles parce que nous sommes unis au Christ. Mais nous serons vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu, comme vous le verrez. Il se peut que vous soyez éprouvés ce matin, peut-être pas au point de poser cette question, mais c'est bon que vous soyez éprouvés. C'est bon que nous nous mettions en question lorsqu'on est confronté par des choses que nous ne comprenons pas. Il ne faut pas vous sentir coupable parce que vous posez des questions. C'est peut-être que ça montre que votre foi est vivante. Si la foi est morte, on ne pose pas des questions comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, ne vous affolez. Deuxième parole d'un crucifié en image de Dieu, c'est qu'il est capable de pardonner. Souvent, la chose qui nous dépasse vient des autres qui nous ont offensés, et surtout les personnes qu'on aime, les personnes en qui on a confiance. Et ils nous ont trahis, ils nous ont accusés de choses qui nous semblent injustes. Le scandale d'être accusé de quelque chose dont on n'est pas coupable. Et le scandale de Jésus est le scandale des scandales. Le plus innocent du monde est traité comme un brigand. Donc, deuxième parole, et je ne sais pas, j'ai essayé en lisant les 7 citations de les mettre dans un ordre chronologique, mais c'est pas toujours évident. Surtout avec le 6e et le 7e. Mais il me semble que la première question est la vraie, la souffrance qui dépassait notre Seigneur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est un enfant de Dieu pratiquant. Nous avons parlé des chrétiens pratiquants et non pratiquants. Les non pratiquants sont beaucoup plus nombreux que les pratiquants. Mais Jésus est parmi les pratiquants. Il pratique ce qu'il enseigne. Il met en pratique ce qu'il croit. Il obéit à Dieu, son Père. Comme Jésus l'a dit, je fais toujours ce qui lui plaît. Ce que le Père attend de son Fils sur la croix, c'est qu'il pardonne ceux qui l'ont crucifié. C'est la première des choses. Rappelons-nous aussi la prière de notre Père enseignée par notre Seigneur, qui a dit dans cette prière, « Pardonne-nous nos péchés. Oui, nous sommes, nous-mêmes nous pardonnons, et tous ceux qui nous ont fait du mal. » C'est facile à dire, et nous sommes tous d'accord que nous devons prier ainsi, et nous devons penser ainsi, et nous devons agir ainsi. Mais il y a certainement dans la vie de nous tous des moments où ça nous paraît trop. Non, ils ont dépassé la mesure, et je ne peux pas pardonner. On est tenté de penser de cette manière. Nous n'avons pas de droit si nous sommes des disciples pratiquants. Et Jésus nous montre l'exemple. Faites comme je fais. Et quand vous êtes offensé, soit crucifié, pareil, vous dites pardonnez. Vous avez appris qu'on a dit tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Le portrait d'un crucifié à l'image de Dieu. Troisième citation. Il se tourne en quelque sorte vers les brigands à sa droite et à sa gauche. Je te le dis, c'est la vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'un des deux s'est tourné vers le Seigneur. Nous n'avons pas tous les mots de ce que le brigand a dit, ni de ce que Jésus a dit. Il se peut que Jésus ait dit beaucoup d'autres choses sur la croix, donc nous n'aurons pas de récit. Mais ce que nous avons nous suffit pour comprendre que il est capable de dire des mots vrais et d'apporter un réconfort à un brigand qui se tourne vers lui. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme moi. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Il y a quelques textes dans l'Évangile où nous disons que Jésus ne détourne pas de lui ceux qui viennent à lui. Et je ne sais pas combien de fois j'ai partagé cette citation de Jean avec quelqu'un qui doutait de l'accueil du Seigneur parce qu'ils ont trop péché, ils ont trop méprisé. Et ils ont dit, mais je ne peux pas croire que Dieu puisse me pardonner. Et je cite parfois notre Seigneur que il ne détourne pas celui qui veut venir à lui. Et nous sommes aussi parfois tentés de penser que j'ai dépassé la mesure, combien de fois je lui ai demandé pardon, et voilà, j'y suis toujours. C'est pas, il ne faut pas, bien sûr, que les demandes du pardon soient un prétexte pour pouvoir toujours pécher. Il y a des gens qui pensent que le pardon lui permet de pécher encore, parce qu'il peut encore lui pécher, nous pardonner. Mais l'idée, c'est d'être pardonné une fois pour toutes. De ne pas revenir sur cette faute que l'on confesse, que l'on regrette. Heureusement, le Seigneur, il est plein de compassion, et nous avons fauté 1000 fois dans le même domaine. Et c'est scandaleux. Ça, c'est un scandale. De demander pardon au Dieu et de faire la même chose. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? À quel moment allons-nous laisser le Seigneur agir en nous pour que nous soyons transformés? Je pense que dans une des prédications de Paul, on parlait du salut. Il a dit, le salut n'est pas simplement d'être pardonné, mais d'être transformé. Et qui peut nous transformer, sinon le Seigneur lui-même. Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce que tu t'es tourné vers moi. Et tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Quelle belle parole pour cet homme à 2 pas de la mort. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Je te pardonne. 4e citation, s'il nous semble intéressant, parce que c'est la citation où Jésus ne pense pas à lui-même pour commander. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, sa sœur et sa mère. Mais la femme de Clopas et Marie de Magdala. Pardon, j'ai mal cité ce texte. Pardon. Jésus voit sa mère et voit auprès d'elle des disciples qu'il aime. Jésus dit, mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples, voici ta mère. Alors, à partir de ce moment-là, les disciples prennent Marie chez lui. On ne sait pas qui est ce disciple. On pense que certains que c'était Jean, mais le nom de ce disciple n'est pas connu. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus pense à sa mère. Et il est probable que Jésus soit le fils aîné. Il y en a 4 et quelques sœurs. Et après le séjour à Nazareth, on ne parle plus de Joseph. La famille a déménagé de Nazareth à Capernaum. Et on suppose que Joseph est décédé et il serait intéressant de s'installer à Capernaum. Et si c'est vrai, Jésus est le fils aîné et qui a la première responsabilité de sa mère. Et sur la croix, il pense à elle. Et je donne simplement quelques textes qui parlent du pourquoi. D'abord, Exode 20, 12. Le commandement, honore ou glorifie ton père et ta mère. C'est un devoir familial qui incombe sur tous les enfants qui ont des parents. On en est responsable lorsqu'ils sont malades, âgés ou incapacités. Nous sommes là et nous devons nous en occuper. Paul nous dit dans 1 Timothée 5, 8, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. Ça, c'est sévère. La valeur que Dieu donne aux parents. Et les enfants sont censés s'en occuper. Le maximum. Et Jésus, je sais pas si c'est toute la raison pour laquelle, ce texte est cité, mais certainement dans la pensée de Jésus, il pense à sa mère et de voir que sa mère est dépassée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être c'était aussi le sentiment de Marie à ce moment-là. Personne ne soupçonne encore de la résurrection. Ça va se transformer en quelques heures ou quelques jours, mais dans un premier temps, c'est la catastrophe absolue. La catastrophe absolue. Cinquième citation, j'ai soif. Jean 9, 29, 19, 28. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on dit dans les livres saints sont arrivés. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai soif. On ne sait pas exactement si c'est une citation psaume 22, mais au verset 16, on trouve que on crie, ma gorge est sèche. C'est certainement typique d'un crucifié d'être dépassé physiquement. Il y a peut-être des sens symboliques, la raison pour laquelle on cite ce texte. Mais je peux penser à l'idée que quand il dit j'ai soif, je suis 100% humain. Certaines personnes ont l'idée que Jésus est un Superman. C'était, il est tellement différent de nous que on ne peut pas nous comparer à lui, parce qu'il est quand même le Fils de Dieu. Mais, paradoxalement, il est non seulement le Fils de Dieu, il est un homme à 100%. Il ressent ce que nous ressentons. Il a soif comme nous avons soif. Il est dépassé comme nous sommes dépassés. Jésus partage intégralement avec nous notre existence sur terre. La condition humaine lui appartient à 100%. Il ne faut pas non plus penser que Jésus est omniprésent et omnipotent, omniscient. Il a appris à obéir à son Père, comme il a appris à marcher, à parler, à se tromper avec le marteau ou le scie de son père dans l'atelier. Il s'est coupé les doigts peut-être plusieurs fois. Il est limité. Et heureusement, nous pouvons nous identifier à lui et il peut s'identifier à nous. Jésus est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Alors, approchons-nous de lui avec confiance. Il est un bon maître. Il nous apprend aussi à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez droit de le dire. Et vous avez droit de trouver la même solution. De vous tourner vers Dieu. Ne vous laissez pas intimider par vos échecs. Il faut les remettre entre les mains de Dieu. Sixième. Père, je remets ma vie dans tes mains. Ça, c'est une citation probablement, psaume 31:6. Mais il se peut que ce soit une phrase bien connue, qui vient de psaume 31. Et j'aime beaucoup à ce qu'on nous dise que il n'a pas dit Dieu, il a dit Père. Quand il cite mon Dieu, c'est une citation. Je crois que c'est, si c'était lui qui avait dit cela sans une citation, il aurait dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a une relation intime avec son Père. Et ça, c'est certainement la chose la plus importante dans la vie, c'est de cultiver et de vivre de cette relation intime avec le Père. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en 2 morceaux. Jésus pousse un grand cri, il dit, Père, je remets ma vie dans tes mains. Je peux m'identifier à l'officier qui est là au pied de la croix, qui dit, l'officier romain voit ce qui est arrivé, comment cet homme en image de Dieu est mort sur la croix. Et il dit, gloire à Dieu, vraiment, cet homme était un juste, ou Marc dit, cet homme était le Fils de Dieu. Ce serait formidable si des personnes pourraient dire cela à notre égard. Notre manière de vivre les épreuves peut nous démontrer comme trop dépassés, ou peut aussi faire voir comment Dieu est capable de nous délivrer du pire. Cette expression, je remets ma vie dans tes mains, c'est une expression d'une vie totalement dépendante de Dieu. Le Fils d'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. C'est sa mission. Et la 7e citation, Jean 19, 30, tout est fini. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Le dernier geste humain, c'est de goûter du vinaigre. Il est à 100% humain. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, tout est fini. Tout est fini. Le mot en grec, c'est au parfait, c'est fini une fois pour toutes. Il baisse la tête et il meurt. Quelle manière parfaite de terminer la vie. Tout est accompli. Mission accomplie. Est-ce que ce sera notre cas? Est-ce qu'on pourrait dire ce jour-là, tout est accompli, mission accomplie? Dans la prière sacerdotale, le jour de la veille, enfin la veille de, le jour avant la crucifixion, nous lisons dans Jean 17, après que Jésus a dit cela, un discours qu'il a donné à ses apôtres, il lève les yeux vers le ciel et il prie, Père, Père, le moment est arrivé, donne de la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre. J'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. C'était sa prière, quelques heures avant d'être crucifié. Je t'ai donné de la gloire sur la terre. J'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Nous sommes disciples de Jésus-Christ à cause de Jésus-Christ. Il est digne de notre confiance. Il est digne d'être suivi. Il est digne d'être imité. et nous voulons le suivre tout au long du chemin, même si cela sera la crucifixion. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de vivre pour lui-même, qu'il meure à soi-même, qu'il porte la croix. Tout ce que ça veut dire, suivre le Seigneur Jésus. Toute personne qui veut vivre de manière digne de Dieu sera crucifiée. Jésus dit, il est impossible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Le monde n'est pas un ami de Dieu, ni de Jésus, ni de ceux qui le suivent. Oh, certains, oui, il ne faut pas exagérer. Mais le monde n'est pas un ami de Dieu. Le monde ne veut pas de lui. À moins que la grâce de Dieu se manifeste. Et ça se manifeste par notre Seigneur. Pour nous dire, nous parlons ce matin de la crucifixion et dans 2 semaines, nous parlerons dimanche de Pâques de la résurrection. Et Paul nous en parle dans ce texte de 1 Corinthiens 15. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, nous qui suivons le Maître. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Et nous, nous serons transformés. Non seulement pardonnés, transformés. En effet, Quand cela arrivera, ceux qui doivent pourrir recevront la vie qui ne finit pas. Et ceux qui doivent mourir recevront la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera, comme les livres saints le disent, une victoire totale. Il a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton âme? La croix est une mort vide qui dépasse tout. Où est ta victoire? Où est ton âme? L'âme de la mort, c'est le péché, et le droit rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Le Seigneur attend de nous de suivre le Maître, ne jamais abandonner, qu'il nous accorde cette grâce. Prions. Père, merci de nous rappeler avec ces quelques versets ô combien est grand notre Seigneur, ton Fils unique. Merci, Père, de nous permettre de le connaître et par lui de te connaître, de nous avoir pardonné, de nous avoir réconciliés. Merci de nous confier la même mission d'aller jusqu'au bout de la course, d'être fidèle à toi. Seigneur, qu'on puisse dire ce dernier jour, tu t'es accompli. Mission accomplie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen.